santé. Claire Hédon.
Bonjour à tous. Samedi se déroule à Paris les deuxièmes assises des médecines à orientation spécifique thérapeutique. Les patients, vous le savez, sont de plus en plus nombreux à recourir à des médecines dites alternatives, et ce souvent en complément d'ailleurs de l'approche classique. Alors phytothérapie, homéopathie, mésothérapie, en quoi consistent ces approches thérapeutiques? Comment s'y retrouver en toute confiance? L'association Paul Most a été créée il y a un an pour défendre et promouvoir ces médecines à spécificité thérapeutique. Elle a également mis en place un label de qualité MOST pour la communication au grand public. Alors pour en parler, je reçois le docteur Meyer Sabah, qui est médecin généraliste à orientation spécifique, lui en acupuncture, mésothérapie et homéopathie. Il est président de Paul MOST. Et le docteur Alain Collongeon, qui est médecin généraliste à orientation spécifique, lui en phytothérapie et homéopathie. Il est secrétaire général de Paul MOST. Dans cette émission, nous aurons également au téléphone le professeur Michel Périgaud, qui est spécialiste en médecine physique et réadaptation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et nous terminerons en parlant du rôle que joue l'entourage des personnes malades. Docteur Meyer Sabah et docteur Alain Collongeau, bonjour.
Bonjour.
Merci à tous les deux d'être ici, parce que vous venez du sud, hein, l'un de Marseille, l'autre de Nice. Vous nous amenez, je dirais, du beau temps. Quand on parle de médecine alternative, tout d'abord, on parle de quoi ?
On parle essentiellement de spécificités thérapeutiques, puisque finalement, ce qui différencie l'exercice des spécificités thérapeutiques et de la médecine alternative, c'est simplement l'application au bout de la démarche d'un médecin classique qui a fait son examen, qui a questionné son patient, qui a éventuellement proposé des examens complémentaires et qui exerce ou pas une spécificité thérapeutique.
C'est-à-dire que le début est le même, la façon de poser un diagnostic est la même.
Tout à fait. Alors, oui et non. C'est le même parce qu'il y a le même questionnaire et le même examen, mais il peut y avoir effectivement des choses complémentaires. Notamment en homéopathie, où on a un interrogatoire qui est beaucoup plus poussé, puisqu'on a besoin d'avoir des spécificités au niveau des modalités de certains symptômes. Par exemple, en acupuncture, il y a aussi la palpation des pouls. Donc il y a quelque chose de plus. En tout cas, il n'y a rien de moins.
Docteur Alain Collongeau, on a aussi l'impression que dans ces médecines dites alternatives, les médecins passent plutôt plus de temps avec leurs patients. Est-ce que c'est vrai ?
C'est tout à fait vrai, il passe forcément plus de temps, déjà en partie à cause de ce que vous a dit le docteur Sabah. Il faut faire c'est la même consultation, mais en plus, on veut des informations supplémentaires. Donc on veut des informations qui vont tenir aux médicaments qu'on va prescrire, et on veut des informations qui vont tenir au terrain, ce qui veut dire qu'on va replacer la maladie dans son contexte. On fait le diagnostic de maladie, on fait un pronostic, on met en évidence le type de traitement qu'il est nécessaire théoriquement de donner en fonction des données actuelles de la science, et puis ensuite on compare avec les possibilités qui existent dans le domaine de ces thérapeutiques alternatives. Tout ça prend effectivement beaucoup de temps.
Docteur Sabah, pourquoi ce terme de médecine à orientation spécifique thérapeutique ? Moi j'étais plutôt habitué à ce terme de médecine alternative, médecine douce. Aucun n'est d'ailleurs parfait comme terme, mais pourquoi le vôtre alors ?
Surtout douce.
Surtout doux, ça n'a rien de doux, vous trouvez ?
Pas trop, non.
Non, c'est pas très doux. Il suffit de voir l'application pratique de la mésothérapie où il y a quand même des aiguilles, de seringues. Donc, ça n'est pas très doux. J'en plaisante souvent, d'ailleurs, avec mes patients. Pourquoi ? Alors, c'est surtout, en fait, une définition non spécifique pour le corps médical. Au niveau des patients, effectivement, connaissent plus le terme de médecine douce, mais ça rappelle un petit peu Rick Azaray, ça n'est pas bien exact.
Vous voulez être plus sérieux, c'est ça que vous voulez dire?
Non, c'est autre chose. C'est autre chose. Il y a de la médecine et il y a effectivement des soins qui peuvent être effectivement de la consommation médicalisée. La consommation médicalisée peut exister, mais n'a rien à voir avec la médecine. Ce qui est important dans notre mouvement, c'est justement qu'on veut se rattacher. Et on est rattaché, mais on veut qu'on nous reconnaisse en tant que médecin et acteur à part entière du système de santé français. C'est le problème qu'on en a actuellement avec la nouvelle loi de Mme Bacheteau, qui est la loi HPST.
De l'hôpital patient santé territoire, hein, qui voilà. Réorganise l'offre de soins.
Alors elle réorganise tellement bien qu'il y a une définition du premier recours, qui par sa définition elle-même, ce qu'on peut croire que le premier recours c'est quand on vous aborde en premier, ce n'est pas du tout ça, c'est bien plus spécifique avec des critères qui ont été énoncés de par la loi. Et il y a un second recours, dans lequel nous pouvons être plus raisons. Donc, n'étant ni du premier ni du second recours, nous ne sommes plus nulle part.
C'est-à-dire, je ne comprends pas bien votre premier et deuxième recours.
Alors, le premier recours, en fait, c'est on pourrait croire que c'est le patient qui aborde le médecin dans un premier temps. Or, ça n'est pas ça. Il y a des critères qui sont permanence des soins, qui sont aussi d'obéir à des règles de la sécurité sociale de prescription, de générique, d'être dans des bons codes, notamment dans le fameux CAPI.
Trouvez que le patient ne peut pas assez choisir le médecin à qui il a envie de s'adresser?
Pour l'instant...
Si je résume ce que vous dites, c'est ça?
Non, il a le choix. Mais par contre, comme il n'est pas remboursé, il n'a pas le remboursement adéquat, il l'a cotisé de la même façon, mais quand il fait son choix, il n'est pas remboursé de la même façon. Donc on voudrait lancer plus tard d'ailleurs un mot d'ordre qui a cotisation égale, remboursement égal. Puisqu'une fois qu'il a fait son choix, qui est censé être libre, puisque ça fait partie des 5 critères du Code de la Sécurité sociale de 71. Au bout, il est pénalisé, c'est-à-dire qu'il n'est pas remboursé. Il n'est remboursé qu'en partie au niveau des consultations de médecins, puisqu'ils sont souvent en dépassement d'honoraires, parce que les consultations durent au moins 30 ou 40 minutes. Et ensuite, les prescriptions ne sont pas remboursées. Ce qui concerne la phytothérapie, l'oligothérapie, il n'est pas remboursé.
Donc une de vos batailles, c'est ça. C'est finalement un meilleur remboursement de ces médecines dites alternatives.
Tout à fait.
Santé sur RFI.
Docteur Meyer Saba, vous êtes médecin généraliste à orientation spécifique en acupuncture, mésothérapie et homéopathie. Alors en un mot, l'acupuncture, on sait que c'est d'origine chinoise.
Tout à fait. Donc il y a, c'est surtout en fait le taoïsme appliqué à la médecine. Donc, voilors, vous connaissez le taoïsme, c'est la symbolique du yin-yang. Donc c'est un système en fait mathématique fermé, c'est ce qui est plaisant, et qui permet effectivement d'aborder la globalité de la personne quand on essaie de la maintenir en santé. Il ne faut pas oublier qu'auparavant, les médecins chinois n'étaient payés que tant que leurs patients allaient bien. Je trouve que c'est la meilleure médecine préventive que l'on ait, entre guillemets, inventée, puisqu'on n'a rien inventé du tout. On en parle beaucoup actuellement. Elle existait depuis plus de 3 ans.
Et quand on est malade, on ne paye plus son médecin. C'était ça, hein, le principe.
Tout à fait. Alors, si la Sécurité sociale accepte ce challenge...
ce serait intéressant. Vous êtes aussi homéopathe?
Oui, là, je vais peut-être laisser la parole au docteur Alain Collongeon,
qui est aussi homéopathe
et qui est, moi, j'ai une pratique non exclusive, c'est-à-dire que je fais aussi de la médecine allopathique.
Et vous, justement, docteur Collongeon, vous êtes exclusif, justement?
Oui, un petit peu plus. Mais je ne sais pas si c'est ce qui est le plus important. Finalement, l'exclusivité ou pas, c'est plus un choix personnel dans l'exercice. Je crois que ce qui est important en l'état actuel des choses, et pour revenir un petit peu à ce qui était dit tout à l'heure, c'est qu'il y a effectivement une transformation très grande avec la nouvelle loi, entre autres, qui se fait dans le système de santé, et que dans cette transformation, dans cette réorganisation complète, l'ensemble de ces thérapeutiques dont on parle aujourd'hui, on n'en tenait pas compte. Et c'est ça le fond de notre problématique. Alors, exercice exclusif ou pas, ce qui est important, c'est d'être médecin. Peut-être qu'on y reviendra tout à l'heure. Et là, je crois que c'est le fond du problème. Après, l'exclusivité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on va peut-être approfondir un petit peu plus dans l'utilisation de ces thérapeutiques, que d'un commun accord entre le patient et le médecin, on va se pencher sur ce type de problème-là plutôt.
Vous êtes aussi, docteur Meyer Saba, mésothérapeute. C'est quoi la mésothérapie? C'est moins connu, je dirais, que évidemment l'homéopathie et l'acupuncture.
Tout à fait. C'est moins ancien. Néanmoins, ça a acquis ses lettres de noblesse maintenant depuis quelques années, puisqu'il y a un diplôme interuniversitaire qui a été institué en France sous l'égide de professeur Michel Périgaud. Je pense qu'on va écouter
qu'on aura au téléphone tout à l'heure. Voilà. Concrètement, c'est quoi la mésothérapie? Vous m'expliquez pas là. Vous me dites juste que ça y est, ça s'est généralisé, mais moi je voudrais comprendre ce que c'est.
Alors, ça consiste à injecter par des systèmes divers et variés, mais surtout donc soit manuellement, soit par des pistolets, des microdoses de produits le plus souvent allopathiques, hein, plus 99% des personnes utilisent des produits allopathiques, rarement autre chose, et donc diluer avec des mélanges qui permettent d'atteindre certaines pathologie, tout ça étant entre guillemets dans le mésoderme. Alors c'est vrai, d'où le terme de mésothérapie, ce n'est plus tout à fait vrai aujourd'hui, puisqu'il y a des méthodes et des techniques qui font mésothérapie qu'on injecte à des niveaux différents que le mésoderme.
Mais qu'est-ce qu'on soigne en gros avec la mésothérapie?
Alors je dirais moi principalement la douleur, puisque le DIU a été accepté dans cette indication-là, dont toutes les douleurs que l'on peut imaginer. Après, effectivement, il y a un travail encore à faire, c'est là où on en discutera peut-être tout à l'heure, c'est que le DIU, pour l'instant, a été accepté que dans cette indication-là, mais il peut y avoir d'autres indications, entre autres des problèmes de sinusite, il peut y avoir des problèmes de dermite, il peut y avoir d'autres problèmes que l'on pourrait aborder par la mésothérapie, que l'on aborde par la mésothérapie, mais qui, pour l'instant, ne sont pas encore reconnus.
Vous l'avez dit tout à l'heure, ça fait mal, en fait, hein? Non, c'est ça.
La mésothérapie, oui, c'est un petit. C'est pas très doux. C'est pas très doux. Non, pour l'avoir subi à maintes reprises, non, c'est pas très doux.
Priorité santé, Claire Hédon.
Je voudrais maintenant qu'on parle de la formation dans toutes ces médecines alternatives ou ces médecines à orientation spécifique thérapeutique, comme vous le dites. Qu'est-ce que vous avez suivi comme formation, peut-être pour démarrer, docteur Alain Collongeon?
Les formations jusqu'à maintenant étaient essentiellement privées, c'est-à-dire qu'en fait, ça fonctionne de la façon suivante. Dans tous ces domaines thérapeutiques, l'exercice comme la formation, c'est le médecin libéral. Ensuite, la faculté a fait quelques DU ou quelques DIU.
C'est des diplômes universitaires.
Diplômes universitaires ou diplômes interuniversitaires quand il y a plusieurs universités qui enseignent. Mais sinon, jusque-là, c'était une transmission de médecin à médecin en fonction de sa propre expérience. Chaque médecin devenant au fil du temps lui-même un enseignant pour les autres.
C'est que ce soit alors pour l'homéopathie, la phytothérapie?
Pour l'ensemble de ces thérapeutiques, oui. Les écoles étaient constituées de médecins libéraux qui, à leur tour, une fois qu'ils avaient acquis une formation, une expérience, enseignaient aux autres avec délivrance, bien sûr, de diplôme.
Et avant toute chose, vous avez fait vos études de médecine. C'est pas inutile de le rappeler.
Avant toute chose, on fait des études de médecine, le reste ne vient qu'après.
Docteur Meyer-Sabah, justement, ce que vous souhaiteriez en ayant créé, je dirais, cette association MOST, Paul MOST même, c'est justement d'essayer de mieux organiser la formation?
Oui, tout à fait. Déjà de la reconnaître, de la faire reconnaître, et effectivement de mieux l'organiser, puisqu'actuellement elle est dispensée parfois en université et parfois par des écoles privées. Les écoles privées, donc moi j'ai suivi l'école de l'AFA, l'Association française d'acupuncture. Il faut préciser que le diplôme d'acupuncteur en dehors des études médicales nécessite à l'AFA 3 ans, plus une année dans le dispensaire, donc pour en clinica, pardon, plus une année pour passer la thèse. Donc il y a même 5 ans pour devenir acupuncteur à l'AFA. Et le CEDH, donc qui est aussi mon école d'homéopathie.
Et ça, vous l'avez fait en travaillant, j'imagine, c'est ça ou pas?
Alors, l'acupuncture, non.
À plein temps?
Oui. Voilà, l'acupuncture à plein temps, l'homéopathie pendant que je travaillais, et puis la mésothérapie, bien entendu aussi, au niveau des CERM, c'est des centres d'études de recherche en mésothérapie.
Docteur Alain Collongeau, pareil, vous avez fait ça
Pareil, les études médicales sont déjà longues. Quand on en rajoute, il est évident que de temps en temps, ça se fait en même temps que le début de cabinet. Ce qui fait que beaucoup d'entre nous ont débuté comme médecin généraliste, allopathe, tout simplement. Et puis ensuite, au fur et à mesure, se sont formés, se sont perfectionnés et là, ont pu introduire d'autres thérapeutiques dans leur
soin. Et qu'est-ce qui a fait justement, vous, que vous avez, je dirais, un peu changé d'orientation
C'est assez compliqué si je vous raconte l'histoire de ma vie, mais pour tout vous dire, dans le courant de mes études, d'abord j'avais des parents qui se soignaient de cette façon-là, en homéopathie.
Ah oui, ça aide.
Ça aide un petit peu, ça aide un petit peu à voir ce que sont les résultats, à quoi ça sert, ce qu'on peut obtenir. Et puis dans le courant de mes études, j'avais fait un diplôme de médecine thermale. La médecine thermale, je suis passé aux oligo-éléments, ce qui était tout à fait raisonnable, et des oligo-éléments, ensuite à l'homéopathie et puis à la phyto.
Ça se fait petit à petit.
Ça se fait petit à petit.
Docteur Meyer, ça va vous organiser les deuxièmes assises des médecines à orientation spécifique thérapeutique. C'est à la fin de la semaine. Quel est le thème ?
Le thème est le libre choix thérapeutique. Le libre choix thérapeutique pour le patient comme pour le médecin.
C'est-à-dire ?
Ça veut dire que de conserver ce qui est en train de disparaître d'ailleurs dans le code de la sécurité sociale de 71, où les médecins signent une convention avec les caisses d'assurance maladie, et il y avait 5 critères. Dans ces 5 critères, il y avait le libre choix et la liberté de prescription. Donc ça fait partie des fameux 5 thèmes. Les autres aussi actuellement sont bien en mal. Il faudrait conserver effectivement cet accord qui aujourd'hui est toujours valable. Il faudrait pouvoir d'une part que le médecin puisse tenir compte de son expérience à lui, et ça fait partie de l'evidence-based medicine auquel on s'attache actuellement beaucoup. Tout le monde parle d'evidence-based medicine, mais c'est très bizarre, on oublie souvent les 2/3 des composantes. Pourquoi ? L'evidence-based medicine dont tout le monde se vante actuellement pour soigner les patients.
C'est-à-dire d'avoir une preuve de l'efficacité des traitements.
Voilà, c'est pas que ça. Il y a les données scientifiques. On se base en fait sur quoi ? Sur les données scientifiques. Les données scientifiques, là on est d'accord, c'est la science.
Et là, ce sont les études cliniques qui ont été faites.
Les études cliniques, les validées, etc. Et très souvent, donc, l'agrément par la haute autorité de santé, la HAS en France. Mais très souvent, ça s'arrête là. Mais dans l'evidence-based medicine, il y a 2 autres composantes qui sont d'une part la compétence du patient. La compétence du patient est composée de ce qui l'entoure, de son environnement et aussi de ses préférences. Et la 3e composante, c'est l'expérience du praticien. Donc si on voit un petit peu effectivement ce dont on tient bien compte du premier cercle qui est donné de la science, on ne tient pas compte des préférences du patient, on ne tient pas compte de l'expérience du praticien. Enfin, du moins dans nos domaines spécifiques. Ce qui fait que la concordance de ces 3 cercles, qui doit être l'evidence-based medicine par la que l'on utilise pour soigner ses patients, ils sont orphelins de 2 cercles actuellement pour nos thérapeutiques.
Et donc vous voulez mettre l'accent là-dessus pendant ces assises. Concrètement, comment ça va se dérouler ? Qu'est-ce qui va se passer ?
Alors les assises, en fait, ce sont nos deuxièmes assises. Les premières ont été basées sur la place des médecines alternatives dans les systèmes de soins français, puisqu'il fallait exister. C'était le principal, c'est-à-dire attention, on est là. La loi hôpital, patient, santé, territoire allait nous faire disparaître. Nous étions en danger. Maintenant, nous prenons un fil rouge qui va, je pense, suivre très longtemps, qui est plus général, qui a liberté de choix thérapeutique. Et là, vont alterner effectivement des tables rondes, qui vont avoir un débat entre des experts compétents qui sont intervenant dans les tables rondes et l'assistance qui sera là, qui sera composée d'ailleurs de patients et de médecins. Et il y aura un deuxième temps, quelques interventions qui vont, dont le professeur Périgaud, qui vont être courtes, d'une 20aine de minutes. Et lors de ces assises, bien entendu, nous ferons le point sur ce qu'on a réalisé dans Paul Most, puisque Paul Most n'est pas là que pour réfléchir. On essaie de réfléchir très vite, mais surtout d'agir.
Alors on va revenir d'ailleurs sur tout ce que vous avez fait depuis un an. Juste une question, docteur Alain Collongeau. Vous avez mis en place un label de qualité Most pour le grand public. Qu'est-ce que c'est ? L'idée, c'est que nous, patients, on réussisse à s'y retrouver là-dedans,
oui.
Parce qu'on est un peu perdu.
Vous êtes un peu perdu, mais beaucoup sont perdus. Et le label de qualité, c'était ça. Alors, on a mis en place l'idée. Donc, tout n'est pas définitivement bouclé. Il y a encore beaucoup de travail. On aimerait bien tous que tout soit terminé, mais ça l'est pas véritablement. C'est un label qui va s'adresser, bien sûr, aux médicaments, c'est ce à quoi vous pensez. Bien sûr, éventuellement, à de la formation. Mais c'est un label qui va s'adresser aussi à tout ce qui est publication, à tout ce qui est presse, à tout ce qui est écrit, parlé ou Internet. Que le patient est une référence quand il lit quelque chose ou quand il entend quelque chose. Alors ça ne veut pas dire que ce qui ne sera pas labellisé ne sera pas bon, mais ça voudra dire que ce qui le sera, sera
on
bon.
Pourra faire confiance.
Oui,
docteur Alain Collongeau, docteur Meyer Sabat, on se retrouve dans 3 minutes après les informations, toujours pour parler de ces médecines alternatives. Nous aurons également au téléphone le professeur Michel Périgaud, qui est spécialiste en médecine physique et réadaptation à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris. Et nous terminerons en parlant du rôle que joue l'entourage des personnes malades.